Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que par ton esprit, tu nous as permis un jour de prêter l'oreille, d'écouter. Et merci, Seigneur, parce que, comme on l'a dit ce matin, tu nous as sauvés, tu nous as graciés, mais tu as voulu aussi nous transformer. Et merci, Seigneur, pour cette parole de vie, de vérité. Nous voulons te demander, Seigneur, ce matin, que nous prenions cette décision de la laisser transformer notre vie, notre cœur, nos agissements, Seigneur. En ton nom. Amen. Suis-je prêt pour la métamorphose? C'est un petit peu le thème que je voudrais partager avec vous ce matin. Parce que nous approchons de Pâques, encore quelques dimanches, et nous serons au dimanche de Pâques, au moment de célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a dans la parole de Dieu un épisode qui est lié directement à la gloire de Christ à la résurrection. Vous vous souvenez, je cite souvent cet épisode parce que j'ai difficile à m'imaginer la gloire de Dieu. On a beaucoup chanté la gloire de Dieu ce matin. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai difficile à faire. Mais il est dans la parole de Dieu cet épisode où, à un moment, les disciples sont avec Jésus et Jésus leur dit, « Vous savez, il y en a quelques-uns parmi vous qui vont pas connaître la mort avant de m'avoir vu dans la gloire. » Et puis, une semaine après, ils montent sur cette montagne avec Jésus, ils sont trois, ils vont aller prier avec lui, aller méditer avec lui. Et puis, à un moment donné, se produit quelque chose de spectaculaire. Jésus n'est plus vraiment Jésus. Jésus se transforme et devient quelque chose de tout à fait différent. Alors, ils ont très très peur, ils sont bouleversés, ils ne savent pas ce qui se passe. Et les évangélistes, après, quand ils vont écrire ce qui se passe, ils ne savent pas non plus trop bien le dire. On lit Jésus fut transformé, Jésus fut transfiguré. Le mot qu'on devrait peut-être approprier, le mot qu'on devrait peut-être utiliser, qui est le plus approprié peut-être, ce serait Jésus s'est métamorphosé. Vous savez, un peu comme le cocon de moi, j'ai vraiment une répulsion pour les cocons des chenilles et tout, c'est poilu, c'est moche, c'est brun, c'est. Mais quand ça se transforme, ce qu'il en sort, ce papillon extraordinaire, c'est un petit peu ça qui s'est passé ce jour-là. Non pas que Jésus humain était comme un cocon, mais que ce qui s'est transformé était fabuleux. Et les disciples ne savent pas comment l'écrire. Ils disent, il avait le visage comme le soleil et le corps comme toute de la lumière transilluminée. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui a le visage comme le soleil et le corps tout transilluminé? Et puis c'est pas tout. Ils étaient là terrorisés et deux personnages se sont amenés. Et ils ont compris dans la discussion qu'il s'agissait d'Élie et de Moïse. Mais Élie et Moïse étaient normaux, humains. Jésus seul était métamorphosé. Puis alors ils étaient terrorisés. Pierre qui prend vite la parole savait pas trop quoi dire. Il a dit allez on va vite faire une tente ici, on va rester ensemble. Et puis ils ont eu encore plus peur parce qu'il y a une nuée de Dieu. Ils ont plus rien vu et il y a eu la voix de Dieu qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, cet élément, la nuée se dissipe. Jésus vient vers les disciples, il leur dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez, on va retourner d'où on vient maintenant. Et puis il leur dit, ce que vous avez vu maintenant, ne le dites à personne, jusqu'à ce que je sois mort et ressuscité. Vous voyez pourquoi j'aime la jonction entre ce passage et la Pâque, le Christ glorifié, qu'on n'a pas vu glorifié. Mais Jésus a dit à ses disciples ce jour-là, le jour de la résurrection, c'est ça qui se passe. Ce que vous avez vu ici n'est qu'un pâle reflet de ma gloire, de la gloire que je vais retrouver après la résurrection. Et Jésus fait ces liens entre la transfiguration et le jour de sa résurrection. J'aime ce passage, je disais, parce que il nous montre la gloire de Jésus-Christ. Et C'est vrai, hein, nous on chante gloire à Dieu, terre écoute sa joie, hein, on chante majesté. Bien sûr, vous le chantez mieux que moi, hein, vous le chantez avec plus de puissance, plus de, oui, oui. Mais quand même, on parle dans nos prières, on lit, on raconte la gloire du Christ. La gloire du Christ, mes amis, c'est ce qui fait Ésaïe, chapitre 5, 6, verset 5, que Jésus, tant que Ésaïe s'écroule en disant « malheur à moi, je suis un homme perdu ». Ça, c'est la gloire de Jésus-Christ. C'est la même gloire quand Ézéchiel est devant la vision d'Ézéchiel et qu'il crie « à cette vue, je tombais la face contre terre et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait ». Ça, c'est la gloire de Dieu, la gloire du Christ, celle qui nous fait nous écraser contre terre. Apocalypse, quand Jean entend et voit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un homme mort, comme mort. Ça, c'est la gloire du Seigneur, la gloire du Christ. En cette période où s'approche le temps de Pâques, en cette période où j'arrive, où nous arrivons à la consécration, à la célébration de la mort et de la résurrection, mes amis, est-ce que je suis prêt à me laisser métamorphoser? Est-ce que je suis prêt, comme le frère ou la sœur qui a fait cette prière, à dire pardon pour ce que j'ai chanté ce matin? Pardon pour ce que je fais dans ma vie par rapport à ce que je chante ce matin. Est-ce que je suis prêt à me laisser métamorphoser? Vous savez, nous avons été touchés par la grâce, nous avons entendu l'Évangile, nous avons, par le Saint-Esprit, accepté la parole du Seigneur, nous avons accepté le salut, nous avons reconnu notre condition et nous avons accepté la grâce. Et puis nous sommes devenus, comme on dit dans la parole de Dieu, nous sommes des convertis. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. C'est se laisser approcher par Christ et aller à sa rencontre. Aller à la rencontre de celui qui est le Dieu de la métamorphose lui-même. Le Dieu de la transformation qui se transforme lui-même et qui nous transforme. Le Dieu qui est le divin potier. Si nous sommes nés de nouveau, c'est pour une expérience nouvelle, une vie nouvelle, une aventure nouvelle, un chemin nouveau. Aller à la rencontre du divin potier. À la rencontre de prière de mercredi passé, il y avait une sœur qui priait et elle disait « Seigneur, je suis désolée. Je suis désolée, Seigneur. Je suis tellement désolée. Je suis désolée, Seigneur. » Et pendant qu'elle priait, je suis désolé, Seigneur, ce mot désolé tapait dans ma tête. Et je disais, Seigneur, moi aussi, je suis désolé. Tellement désolé, Seigneur. Je suis désolé. Peut-être comme le frère de chanter ces choses, mais de ne les pas voir s'accomplir dans ma vie. Je suis tellement désolé, Seigneur. À la rencontre du divin potier. Nous connaissons bien ce texte, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie au chapitre 18, c'est les versets 1 à 6 où il nous est dit « Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant « Jérémie, descends tout de suite chez le potier et là, je vais te faire entendre ce que j'ai à te dire. » Alors je suis donc descendu chez le potier et il était en train de travailler sur son tour, mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Ce qui arrive parfois. Alors, le potier a fait un autre pot, comme il lui plaisait de le faire. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Jean d'Israël, est-ce que moi je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Vous êtes dans ma main, comme l'argile du potier. Jérémie descend là et le Seigneur lui dit, je vais te faire une révélation, quelque chose que tu vas dire à mon peuple, que tu vas dire à mes enfants. Mais pour que tu comprennes, tu vas aller dans la maison du potier. Et là, dans la maison du potier, tu vas regarder et tu vas voir. Le potier travaillait sur son tour. Vous voyez, sur cette image déformée, enfin chez moi c'est déformé, c'est aussi déformé. on voit un vieux tour à potier, et vous voyez la différence qu'il y a entre la dimension de la roue du bas et la dimension du haut, vous voyez la démultiplication qu'il y a, et vous pouvez vous imaginer comment ça se passe lorsque le potier, il agit la table du bas et la démultiplication qu'il y a pour faire tourner à toute vitesse la table du haut. Ce que Dieu veut faire comprendre à Jérémie ce jour-là, lorsqu'il l'envoie dans la maison du potier, il veut lui faire comprendre que nous sommes la pâte qui tourne là, dans la main du potier, sur cette petite table, là-bas au-dessus. Il veut nous faire comprendre que c'est pas évident toujours d'être là-dessus. Hein, je pense que ça doit un peu trembler, un peu vibrer, comme on le voit avec le différentiel entre les deux roues, ça doit tourner à toute vitesse. Une fois que ça tourne, bon, les images qui sont autour de nous peuvent devenir un petit peu floues, un petit peu bousculées, un petit peu chahutées, on sait plus trop bien ce qu'on voit, on comprend plus trop bien ce qu'on voit, et il nous arrive ça, n'est-ce pas? Il nous arrive ça tellement souvent, n'est-ce pas? On est au volant de notre voiture quelque part, on est dans notre bureau quelque part, on est dans notre chambre quelque part, en train de se dire, et ça tourne autour de moi, et je ne comprends pas, et je ne comprends plus ce que je vis, et je ne comprends pas ce que je vois, et je ne comprends pas ce qui se passe. Et même que, il nous arrive souvent en tant que chrétien de dire, alors dans ces moments-là, en réalité, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que l'ennemi de Dieu m'attaque, l'ennemi de Dieu me fait du mal. Alors qu'en réalité, si nous réfléchissions un petit peu, nous pourrions peut-être remettre les choses à leur juste place et comprendre que il y a celui qui contrôle tout qui est occupé de nous faire tournoyer sur le plateau où il nous façonne. C'est avec son pied qu'il contrôle la vitesse à laquelle les choses tournent. Bien sûr, je suis désolé. Seigneur, je suis tellement désolé. Oui, parce que c'est pas de la fabrication instantanée. Ici, sur l'image, vous voyez, c'est un pot qui a été coulé, ou je sais pas si c'est un pot de céramique qui a été cuit, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on sort du revêtement. Tac! On claque l'enveloppe, et il est là. Il est fini. C'est pas comme ça que ça se passe sur le tour du potier. Ce que Jérémie a dû regarder, c'est pas ça. C'est pas un tour qui a fait quelque chose d'instantané, de terminé, de parfait, de réglé. Non. C'est quelque chose de progressif. Je suis désolé, Seigneur. Oui, nous sommes désolés parce que nous avons difficile, nous, à accepter ce qui est progressif, lent, qui va se faire sur tout le cheminement de notre vie, tant que nous marcherons avec le Seigneur et dans la confiance avec lui. Nous voulons du rapide, de l'instantané. Hein, on pousse sur une touche, on est sur Skype, et paf, on voit la tête de celui qui est à l'autre bout du monde et lui voit la nôtre. Waouh, ça, c'est comme ça maintenant que ça marche. On met la carte dans le lecteur et vous savez, chez moi j'ai le lecteur dans mon bureau et mais il n'est pas relié sur Internet, il est relié sur la ligne téléphonique. Alors vous faites le code et vous savez dans un magasin vous faites tic tic tic, vous n'avez pas fini de faire le code, put, le papier est dehors et c'est fini. Chez moi, il faut attendre un petit peu parce que ça passe par le téléphone. Alors vous voyez la panique des gens. Je dois appuyer sur le vert, je dois appuyer sur le rouge, je dois appuyer sur valider. Non, vous laissez le temps. L'époque de l'instantané. Moi, des fois, je m'en veux le matin. Nous avons une cafetière, la Senseo, hein, vous voyez. Quand j'appuie sur la cafetière, il y a une petite diode qui s'allume et qui fait tit, 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 tit. Et puis, quand l'eau est prête, elle arrête de faire tit-tit, ça reste allumé, et là, je peux appuyer pour avoir ma tasse de café. Et je m'en veux parce que, vous savez, je suis tout seul dans la cuisine, devant cette machine, et je lui parle. Je lui parle, je lui dis, tu vas le faire quand ton café? Nous sommes à l'époque de l'instantané, mes amis, c'est vrai. Nous sommes à l'époque de l'instantané. Nous voulons la fabrication instantanée. Mais sur le tour du potier, c'est pas comme ça. Ça tourne. Et le potier manipule, il corrige, il redresse, il façonne. Il veut que ses propres empreintes soient en toi, en moi. C'est tout à fait différent. C'est pas du démoulé, terminé. Évidemment, Désolé. Désolé, Seigneur. Je suis désolé. Quel vase suis-je? Quel vase suis-je? C'est vrai que devant le Seigneur, comme il a été dit dans la prière ce matin, je chante des choses, mais c'est tellement loin de ma réalité. Quel vase suis-je? Je suis tellement désolé. Est-ce que je suis un vase avec une anse qui ne sert plus à rien parce qu'elle est cassée, ou un bec verseur qui n'est plus là, un vase qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de fond? Ou bien un vase comme celui-là, brisé, cassé, complètement démoli, par terre, en mille morceaux? Est-ce que je suis un vase comme ça devant le Seigneur? Mes amis, quel vase je suis devant le Seigneur? Est-ce que je suis un vase comme ça, en mille morceaux? Ça arrive dans l'atelier du potier qu'on voit des trucs comme ça, cassés en mille morceaux par terre. Si c'est le cas, s'il me manque des morceaux, si je suis en mille morceaux par terre, si je suis ébréché, si je suis abîmé, qu'est-ce que le Seigneur va faire de moi? Qu'est-ce que le Seigneur va faire de toi? Il va te recoller ici comme ce pot avec un petit peu de collant, avec un petit peu de jaune d'œuf, avec un petit trou au-dessus, un petit trou en bas, refaire un machin qui sert plus à rien, qui ressemble plus à rien. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Est-ce que le Seigneur va dire cet homme-là, rien du tout. Cette femme-là, rien du tout. Je la remplace par un autre homme, je la remplace par une autre femme. Je fais quelque chose de neuf. Poubelle, ça. Et leur place dans le royaume, terminée, remplacée par quelqu'un d'autre. Est-ce que le Seigneur va prendre la terre de ce que nous sommes, de ce qu'il façonne, et dire, de la terre qui vaut rien du tout, ça. Par la fenêtre, on balance tout ça. Et attends, je cherche une autre terre. Une terre qui est bien. Une terre qui est plus lisse. Une terre qui se laisse bien travailler. C'est ça que va faire le Seigneur? Non, mes amis. Non. Ce jour-là, le Seigneur montre à Jérémie quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, il arriva, comme il arrive pour le potier, que le vase qu'il fit eut un défaut. Et lui, il recommença avec la pâte, et il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et il ajoute, va dire à mon peuple, va leur dire la leçon que tu as comprise. Si le potier agit ainsi, est-ce que moi-même, je ne peux pas être comme ce potier avec vous, vous qui êtes la pâte dans ma main? Le Seigneur parle de restauration. De restauration. Quelle restauration? Restauration partielle? Restauration complète? Le Seigneur veut la restauration complète. Il ne veut pas remplacer ta anse qui est cassée et laisser un pot où il n'y a pas de fond. Il ne veut pas ça. Il veut la restauration complète. Le Seigneur veut la restauration complète. Il veut recommencer avec la pâte. Vous savez, dans la pâte, comme pour le potier, parfois, c'est la pâte qui résiste. C'est la pâte qui n'est pas trop malléable. C'est la pâte qui est peut-être un peu trop sèche. C'est la terre qui est peut-être avec des défauts. Alors bon, quand il est occupé, ça fait un défaut d'un coup ou ça fait une déchirure. Le Seigneur veut la restauration. Mais moi, je veux la preuve de ça. Je veux la preuve de la restauration complète. C'est trop facile ça, de dire quand je suis dans mes frustrations, quand je suis cassé, quand je suis brisé, que je sais là que je suis tellement loin de ce que le Seigneur attend de moi, que je suis là dans ma prière. Désolé Seigneur, désolé. Je suis tellement désolé. Moi je veux la preuve de la restauration complète. Mes amis, vous connaissez ce passage dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 33. Voici l'histoire d'une restauration impensable, inimaginable et complète, totale. Dans le livre de Chroniques, on lit l'histoire de Manassé et on va lire ces quelques versets là où il est dit « Manassé devient roi à l'âge de 12 ans et il est roi à Jérusalem pendant 55 ans. » Mais il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il imite les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. Il reconstruit des lieux sacrés que son père Ézéchias a démolis. Il élève des autels en honneur des Baals. Il fabrique les poteaux sacrés. Il adore les astres du ciel. Il les sert. Il dresse des autels dans le temple de Jérusalem. Au sujet du temple que le Seigneur a dit, c'est là que je montrerai ma présence. Il construit aussi des autels en l'honneur des astres du ciel dans les deux cours du temple. Il brûle ses fils en sacrifice dans la vallée de Hinnon. Il lit dans le ciel et essaye de deviner l'avenir. Il consulte ceux qui interrogent les morts. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il provoque sa colère. S'il y a un homme qui a vécu le plus loin, le plus mal qu'on peut devant l'Éternel, en tout cas en tant que roi de Juda, c'est Manassé. Il n'y a pas de pire roi qui a vécu à Juda que Manassé. Vous avez vu ici dans ces quelques versets, il a tout fait. Il a laissé revenir tout ce qui était adoré à Babylone, tout ce qui était adoré en Assyrie. Il a rebâti les pieux sacrés où il y avait toute la prostitution sacrée. Il a adoré les dieux comme Moloch avec ses propres enfants qu'il a fait offrir en holocauste par les femmes, les flammes, pour adorer des dieux comme Moloch. Il a rétabli, comme on l'a lu, dans le temple, des lieux d'adoration à d'autres dieux. Il a invoqué les morts. Il a fait tout ce qui est interdit. Alors, on l'a vu, il est monté sur le trône à 12 ans. Il a vécu comme roi, une très longue royauté, 55 ans. Il a fait tout ce qu'on peut pas faire. Et si on devait résumer, c'est le verset 2. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il fait toujours ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il n'y a pas eu d'autre roi comme lui. On peut dire que Manassé, il a fait à son époque tout ce qu'on peut faire pour chasser Dieu, pour repousser Dieu, pour ne pas avoir envie de vivre avec Dieu, pour ne rien avoir à faire avec Dieu. Il a tout fait. Et il a fait tout ce qu'on pourrait faire aussi à notre époque aujourd'hui pour dire « Dieu, je m'en fous, j'en ai pas besoin de ma vie, je vis comme je veux, de n'importe quelle manière. » Et plus il a fait ça, il a fini par, dernier passage qu'on a lu, provoquer la colère de Dieu. Alors, c'est pas tout. Non seulement comme il était roi, il a fait tout ça pour lui, mais il a aussi entraîné tout un peuple. Manassé entraîne les habitants de Jérusalem et de tout le royaume de Juda à agir mal, au verset 9. Ah, il a entraîné tout le peuple dans cette dynamique-là. Alors, est arrivé ce qui devait arriver. Il a mis la colère de Dieu à feu et à flamme. Il a commencé à avoir des problèmes avec tous les religieux de l'époque, avec les prophètes comme Ésaïe, avec les prêtres, mais c'était vite réglé. Quand on lui disait un truc qui le dérangeait, hop, on passait par les flammes ou on était tué. C'est lui qui a mis à mort Ésaïe. C'est sous le règne de Manassé que le prophète Ésaïe a été mis à mort. Et la tradition veut qu'il a demandé qu'on le scie en deux, de haut en bas. Ça, c'est Manassé. Donc, c'est la vie, le règne de Manassé et son écoute à l'égard des prophètes, à l'égard des prêtres, à l'égard de tout ce que l'Éternel voulait lui dire. Alors, ce qui devait arriver arriva, chapitre 11. Le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Ils prennent Manassé, ils lui passent des crochets dans les mâchoires, ils l'attachent avec des chaînes de bronze, ils l'amènent à Babylone. Alors vous avez déjà vu ces bas-reliefs sans doute où quand les Babyloniens importaient les prisonniers, les esclaves, il y avait les chaînes autour du cou, les chaînes autour des pieds, les chaînes autour des mains, et lui, visiblement, il a été torturé, très maltraité, puisqu'on parle de crochets qui ont été mis dans sa mâchoire. Donc, il a dû beaucoup souffrir de ce qui s'est passé là-bas. Et il a été enchaîné. Enchaîné. Parenthèse, c'est vrai que vous avez fait cette expérience, n'est-ce pas, que quand on se laisse aller à ses pulsions, à ses mauvais choix, à ses mauvaises idées, à ses tentations, à ses envies. En général, on est enchaîné. On est enchaîné. Quelqu'un m'a rapporté une rencontre chez les Alcooliques Anonymes. Il me donnait le témoignage qu'il avait entendu là-bas. C'était un homme de... les alcooliques anonymes s'appellent des alcooliques abstinents. Ils sont toujours alcooliques jusqu'à la fin de leur vie. Ils disent « Je suis alcoolique abstinent ». Et cet homme était alcoolique abstinent depuis 24 ans. Et il disait « Je suis enchaîné à vie à l'alcool ». Enchaîné à vie. Il disait « Nous, chez les alcooliques anonymes, tous les 15 jours, nous fêtons notre abstinence. Parce que c'est jour après jour, chaque jour après chaque jour, que c'est un combat et que c'est une victoire quand nous avons gagné cette journée-là. » Et il disait, moi, dans un restaurant, un tiramisu, dans un endroit, une praline avec de l'alcool, c'est garanti, c'est au moins 2 litres de whisky sur la journée qui suit. Enchaîné. Il est arrivé ce que devait arriver à Manassé, il a été déporté, il a été enchaîné. Voilà, mes amis, l'histoire d'un vase complètement fichu. C'est comme l'image qu'on a vue là tantôt. Tout est cassé par terre, tout est brisé par terre. Il n'y a pas plus fichu que Manassé. Peut-être, toi, tu es devant le Seigneur. Désolé, Seigneur, je suis désolé. Et tu trouves qu'il y a des imperfections, tu trouves qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais plus fichu que Manassé, il n'y a pas. Il n'y a pas plus fichu que Manassé. C'est pas possible, c'est pas possible. Peut-être tu vois autour de toi des gens que tu aimes, dans ta famille, dans tes enfants, des gens que tu vois comme des menacés tellement loin de Dieu que tu te dis non retour possible, impossible. Vous savez que Manassé était le fils du roi Ézéchias. Ézéchias était le meilleur de tous les rois de Juda. Depuis le grand roi David, il n'y en avait pas eu comme lui, qui avait rétabli la souveraineté de l'Éternel en Jérusalem, qui avait rétabli le temple, qui avait rétabli les lieux d'adoration, qui avait supprimé toutes les adorations aux Baal et aux autres. Il n'y en avait pas eu d'aussi bien que son père. Il était famille avec Isaïe, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Son père lui a enseigné comment il fallait vivre sa vie en présence du Seigneur. Le prophète lui a parlé. Rien n'a fait. Encourageant pour nous. Encourageant pour nous de voir le fils direct du plus grand roi après David dans la manière de vivre avec l'Éternel à Jérusalem, qui a un fils comme Manassé. Enfin, encourageant. Vous avez compris, hein? Pire que Manassé, c'est pas possible. Et pourtant, ce vase complètement fichu, complètement brisé, a été complètement restauré. Regardez au verset 12. Il est là avec ses crochets dans ses mâchoires, avec ses chaînes à ses mains, à ses pieds. Manassé prie le Seigneur, son Dieu. Il s'abaisse devant le Dieu de ses ancêtres et il le supplie. Dieu se laisse toucher, il écoute sa prière, il le fait revenir à Jérusalem, il rétablit son pouvoir royal. Alors Manassé reconnaît que c'est le Seigneur qui est Dieu. Vous vous rendez compte? Désolé Seigneur, je suis désolé Seigneur, désolé, vraiment désolé Seigneur. C'est la prière de Manassé. Il est désolé de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Il se repent, il demande pardon. Il implore le Dieu contre lequel il s'est rébellé. Il aurait pu rester comme il était. C'est pas dans ce moment-là, quand tout était fini, qu'il avait besoin d'essayer de retrouver la présence de Dieu. Il avait toujours ignoré. Et il supplie Dieu. Et cette supplication, Dieu l'entend. Et Dieu le rétablit. Non seulement on lui enlève ses crochets, on lui enlève ses chaînes, mais il revient à Jérusalem. Non seulement il revient à Jérusalem, mais il est rétabli dans son pouvoir royal. Il devient roi là-bas. Waouh ! Extraordinaire ! Une histoire extraordinaire ! Une restauration complète ! Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Premier volet de l'histoire. Parce que lorsque Manassé est restauré par Dieu, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a été libéré et lorsqu'il est rétabli comme roi, nous lisons au verset 14, Après ces événements, Manassé construit un mur très haut autour, à l'extérieur de la ville de David. Un mur très haut. C'était pour se protéger maintenant, pour que ce qui s'était passé avant ne se repasse plus, pour que toutes les dominations, les fausses religions, les mauvaises influences sur le peuple d'Israël, tout ça sur la ville de Jérusalem, pour que tout ça ne se produise plus, il fait construire un mur. Comme nous sommes exhortés à le faire, Dieu nous restaure, mais on nous demande de nous garder du mal. On nous recommande de ne pas donner facilement excès à l'ennemi de Dieu. Puis, après le verset 14, le verset 16, il reconstruit l'autel du Seigneur, là il offre des sacrifices de communion et de louange. Il a enlevé tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu dans le temple. Il a repurifié le temple. Il a rétabli l'autel des sacrifices. Il a réoffert les sacrifices. Le temple est redevenu un lieu où on rencontre Dieu, un lieu où on loue, un lieu où on prie, un lieu où on adore, un lieu où on demande pardon. Dieu avait restauré Manassé, mais Manassé devait continuer. Être restauré, ça demandait aussi de retrouver la communion avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, de prier avec Dieu, de recevoir de Dieu le pardon qu'on lui demandait. Verset, deuxième partie du verset 16, il donne l'ordre aux Judéens de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ah, Manassé a été souverainement rétabli, restauré. Mais maintenant, il veut servir et il demande à ceux qui sont de son peuple de servir l'Éternel. Ça, ça lui appartenait. Ça, ça nous appartient. C'est le volet qui dépend de notre volonté. Le Seigneur veut nous restaurer. Il façonne le vase que nous devons devenir dans sa main. Mais c'est pas lui qui nous oblige à prier. C'est pas lui qui nous oblige à garder la communion avec lui. C'est pas lui qui nous oblige à demander le pardon. C'est pas lui qui dit, soyez à mon service parce que l'oisiveté va de nouveau laisser entrer la porte à celui qui est mon ennemi. C'est pas lui qui va construire à notre place une muraille autour de nous. Ça, c'est ce qui nous appartient à nous. C'est ce qui appartenait à Manassé. Et c'est ce qui a permis que Manassé prenne sa part pour une restauration complète. En conclusion, ce matin, je voulais vous laisser ces quelques éléments. C'est que notre fête de Pâques approche, avec en perspective la gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection, dont les prémices étaient un petit peu la gloire du Christ transfiguré. Et je pense que, puisqu'il y a eu cette transfiguration, cette métamorphose, il est précieux pour nous de saisir ce temps comme un temps où nous aussi, nous pouvons de nouveau être métamorphosés, transformés à la rencontre du divin potier. Précieux de se poser la question, quel vase je suis ? Précieux de se suggérer que peut-être je dois être restauré. Être convaincu que ma restauration totale, elle est possible. Avoir cette assurance qu'elle commence par le point de départ, comme Manassé. Ma repentance, ma soumission à Dieu. Seigneur, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis désolé, Seigneur. Et elle se poursuit par ma propre volonté d'obéir et d'agir. Alors que soit peut-être notre challenge maintenant, en cette période de préparation de Pâques. Amen.